Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue à la 6e édition du festival Plein Écran, le meilleur festival de cinéma sur Facebook, qui se déroule du 12 au 23 janvier 2022. Ariane Roy-Poirier au micro, très heureuse de prendre la relève de Nicolas Krief pour animer les conversations avec nos invités. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions chaleureusement pour leur soutien. Dans cet épisode, on reçoit Inès Guénaoui, réalisatrice, et Charles-André Coderre, producteur, pour leur film « L'enfant tempête » qui nous fait vivre la tempête de verglas de 88 à travers les yeux de Yasmine et de sa famille algérienne, tout juste arrivée au Québec. Merci beaucoup Inès, merci Charles-André d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de « L'enfant tempête ».
Merci, merci à vous de nous inviter, c'est vraiment une belle initiative, en tout cas de discuter du film, vu que c'est en ligne, tu sais, on ne peut pas vraiment parler avec les réalisateurs.
Oui, puis c'est exactement ça l'idée. On essaie de recréer un peu l'essence d'un festival, la rencontre entre les créateurs et le public. Fait que grâce à la magie du virtuel et du balado, on est là. Et on parle justement de L'enfant tempête, donc un film qui fait partie de la compétition québécoise de plein écran, de la 6e édition de plein écran. Je suis vraiment très, très contente de vous avoir parce que, évidemment, que si j'ai choisi le film, c'est parce que je l'aime beaucoup. C'est un film que je trouve absolument touchant, magnifique, bouleversant. J'ai vraiment qu'il y a des beaux mots. Mais j'aimerais ça, en fait, Inès, peut-être que tu présentes le film. J'aimerais ça entendre dans tes mots un peu le pitch de c'est quoi L'enfant tempête.
Oui, en gros, dans le fond, c'est l'histoire d'une famille qui viennent immigrer. En fait, c'est des réfugiés qui arrivent au Québec. Ça se passe en 97, pendant la tempête de verglas, 98. Puis, dans le fond, c'est un peu une incursion dans l'esprit de la plus jeune enfant de la famille qui a 4 ans, une petite fille de 4 ans qui... J'avais envie d'explorer comment un enfant peut vivre ce genre de situation-là. Qui, dans le fond, se passe tout dans l'appartement, parce que c'est aussi comment le raconter dans un court-métrage. Donc, c'est un peu un huis clos, en pleine tempête, panne de courant. Donc, c'est assez sombre, puis un peu claustrophobique. Donc, voilà, c'est vraiment un film, je pense, sensoriel, plus que narratif.
Tout à fait. C'était dans mes notes. Très sensoriel comme film.
Oui, mais c'était ça le pari, là, disons, d'essayer de faire ressentir ce qu'un enfant peut sentir dans une situation comme ça.
Un pari très réussi. Puis d'ailleurs, moi, ce qui me fascinait beaucoup avec la proposition du film, c'est que j'ai toujours voulu faire un film sur le verglas, moi, ou en voir un. Je trouve tellement que c'est intéressant comme période. On a sensiblement le même âge, fait qu'on l'a peut-être vécu un peu d'une façon similaire. Je trouve que c'est une période fascinante. Puis, cette vision-là, de cette période-là, dans un regard de justement des nouveaux arrivants qui ont... On est vraiment dans du trauma quand même. Là, il y a une bonne dose de traumatisme. Je trouvais ça absolument fascinant. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu mettre justement ces deux choses-là ensemble? C'est quoi l'étincelle pour te dire, j'ai envie de parler de cette période-là, mais d'une vision qui est complètement extérieure, en fait?
Je voulais renforcer l'idée que l'extérieur est hostile pour la famille. Mais bon, là, on se concentre sur la petite fille. Mais donc, l'extérieur, il y a une tempête de glace que même pour les Québécois, c'était hostile. Là, je veux dire,
ouais,
même
c'est la fin du monde.
C'est ça. Même quand on est habitué de vivre dans un pays d'hiver, c'était particulier. Donc, imaginez des gens qui viennent de pays quand même chaud où il n'y a pas... neige, là, disons. Déjà, je trouvais que ça rajoutait... Comme je disais, je trouvais que c'est quand même un pari de raconter ça dans un court-métrage. Donc, je voulais, renforcer l'idée d'hostilité, de crainte de ce qui est à l'extérieur, d'inconnu, parce que c'est de l'inconnu. Un peu l'idée aussi que je disais de huis clos. Et la tempête, on la voit jamais. Dans le fond, le film a été filmé au mois de mai, là. En plein jour, tu sais, c'est comme, c'est vraiment à travers le son puis la lumière qu'on a pu recréer l'ambiance. Mais c'est de ne pas voir la tempête, je trouvais que ça rajoutait aussi à l'idée d'inconnu, de peur. Donc, c'est qu'elle peut s'en faire dans sa tête. Les sons de tempête, de vent peuvent devenir autre chose, tu sais.
Donc, ouais, ça laisse flash beaucoup à l'imagination, puis c'est souvent ce qui fonctionne le plus, parce qu'il y a quand même un côté horreur un peu au film. Puis en horreur, ce qui fonctionne le plus généralement, c'est qu'on le voit pas le monstre. Dès qu'on le voit, il fait un petit peu moins peur. Donc, il y a cette idée-là quand même de pas la voir, la tempête, puis elle est peut-être plus menaçante encore.
Oui, exactement. Puis même dans des versions de scénarios préliminaires, il y avait carrément une créature dans l'appartement, tu sais, un peu, je sais pas, symboliser ou représenter toutes ces craintes-là que la petite fille avait, mais je trouvais que ça devenait un peu trop horreur. Tu sais, je voulais pas que ce soit non plus un film d'horreur, mais ça emprunte clairement à ce genre-là. Mais l'horreur, dans le fond, c'est la guerre, c'est les atrocités qui se sont passées, c'est le fait d'être arraché à son chez-soi, c'est le trauma, comme tu dis. Fait que je trouvais que ça parlait assez de soi.
Ah, définitivement. Je pense que c'est un super bon choix. Puis j'aimerais vous entendre un peu, en fait, Charles-André, j'aimerais t'entendre sur à quel moment toi t'arrives dans ce projet-là. Est-ce que c'est dès le début comme producteur? Est-ce que vous avez beaucoup discuté du scénario ensemble? Comment ça s'est passé, cette collaboration-là?
Ben, je pense que ça s'est fait de façon assez spontanée puis naturelle, dans la mesure que Inès, moi et Inès, on est allés à l'université ensemble, à l'Université de Montréal. Puis après ça, tu sais, on s'est un peu toujours au courant de nos projets ou de vice-versa-là, qu'est-ce qu'on fait puis sur quoi on travaille. Puis là, ça tombait que quand on parlait de ce projet-là, je sais plus si c'était vraiment en recherche d'un producteur tant que ça m'avait fait, je pense, des versions de scénarios. Puis on était vraiment en mode un peu s'aider, là, tu sais, comme un, disons, je dirais une sorte de cinéma de proximité, du genre de on n'a pas beaucoup d'argent, on essaie de faire des films, puis comment on peut s'entraider pour que le film se réalise. Là. Donc, je pense que ça s'est fait un peu comme ça, plus que vraiment dans l'idée on produit le film d'une façon peut-être classique ou traditionnelle. Là. Donc, c'est assez... Tu sais, au début, je pense que j'étais plus là un peu comme tu sais, j'étais autour du projet, mais pas nécessairement comme officiellement producteur. Puis tu files en aiguille. Tu sais, on a fait le casting ensemble, une partie du casting ensemble. Après, tu sais, le film a été tourné chez ma voisine en haut, dans le duplex. Donc, tu sais, je pense que après tout, c'est imbriqué là, de façon assez, c'est naturel dans le fond là.
Mais je veux que vous m'en parliez du casting parce que c'est pas facile de trouver ce personnage-là, là, une jeune fille de 4 ans qui va être aussi bonne, qui va... Il y a beaucoup de choses qui passent par son visage, par ses yeux. Donc, comment ça s'est fait, ce processus-là, pour toute la famille, mais surtout pour la petite?
Oui, ça a été... On a été très chanceux parce qu'on a fait des casting calls, puis pour tous les personnages, c'était pas évident parce que je voulais qu'ils parlent arabe, bien entendu, entre eux. Ça faisait pas de sens qu'ils se parlent en français comme ils viennent d'arriver. C'est leur langue, tu sais. Donc, il fallait des personnes arabophones. Puis, comme c'est clair que c'est des Algériens, c'est mentionné dans le film, je voulais pas que ce soit des Libanais ou même des Marocains, même si c'est proche, c'est pas le même arabe. Pour moi, c'est important, même si, même si quelqu'un comprend pas l'arabe, écoute le film, pour moi, c'est important. Donc, il fallait trouver des Algériens arabophones, parce qu'il y en a des Algériens à Montréal, mais qui parlent pas arabe aussi, de tous ces âges-là, donc un père, une mère, un garçon, une fille. Alors, nous, dans le fond, pour les auditions pour l'enfant, si on parle du personnage principal, la petite fille, c'est la seule qui s'est présentée. Nous, on est allé à travers des réseaux d'Algériens de Montréal, il y a des groupes Facebook, tout ça, on faisait des annonces. Puis là, il y a elle qui s'est pointée, puis ça a quand même bien marché. Je veux dire, si ça avait été un fiasco, tu sais, ça n'a pas l'air d'y tenter ou quoi, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas pris non plus. Mais on a été chanceux. Puis même la première journée de tournage, là, je ne sais pas, Charles, t'étais-tu là ou t'étais chez vous en bas, mais elle a comme, comprenable, elle a pris peur.
Mm-hmm. Ben oui, c'est intimidant.
C'est intimidant. Tout était, tu sais, elle est arrivée, tout allait bien. Puis là, dès que tout était en place, surtout qu'on a toutes bouché les fenêtres parce qu'il fallait qu'il fasse noir. Il fallait qu'elle marche dans l'appart, il fait noir. Il y a plein de monde qu'elle ne connaît pas qui la regarde. Elle ne voulait plus, tu sais. Puis là, il a fallu, tu sais, la convaincre. Ça a été tout un travail de... moi, j'ai aimé ça, là, sincèrement. Parce que c'était travailler dans la douceur puis de dans le... J'ai réalisé que moi, j'aimais ça, travailler de même, pas juste parce que c'était une enfant, mais même avec des adultes, de ne pas être comme torsionnaire. Puis,
très empathique.
Empathique, créer une atmosphère chaleureuse, rendre l'acteur confortable. Puis ça a été un gros apprentissage. Elle m'a appris beaucoup.
Donc, ah, c'est très beau, ça. Ouais. Donc, vous êtes partie d'elle, puis après, la famille, est-ce que vous l'avez construit autour? C'est sa famille à elle vraiment ou...
Non, en fait, pour ce qui est du père, c'est Rabah Ait Ouyahia, que dans le fond, lui, c'est déjà un acteur qui a joué dans plusieurs films, dont L'Ange de Goudron. Mmh. Puis,
il est très bon, le père. La scène où il lit, où il raconte l'histoire, là,
oui,
c'est
lui,
magnifique.
Il est excellent. Il nous donnait ce qu'on voulait comme, tout de suite. Là, il y avait pas de... Puis lui, dans le fond, ça a été le premier qu'on a trouvé parce que bon, c'était déjà un acteur connu. Puis j'avais pensé à lui. Ensuite, lui nous a trouvé, ben, c'est l'actrice qui joue la mère, c'est une personne que lui connaissait, avec qui il avait déjà travaillé, qu'elle aussi, je l'ai trouvée vraiment bonne. Puis le garçon aussi, c'était une audition que lui aussi, je pense que c'était le seul qui s'était
pointé. Non, il y a une autre personne, me semble, au moins. Il n'y avait pas beaucoup, mais...
Il y avait comme... À caller off à dernière minute. C'est particulier parce que c'est ça, c'est des gens qui font ça volontairement. Nous, on n'avait pas de budget, donc on ne les payait pas. Alors, c'était dur d'avoir une fidélité, tu sais, des gens qui disent « oui, on va venir à l'audition », puis vraiment qui se pointent.
Oui, c'est engageant, là.
C'est engageant, puis moi, je pense que ça a marché avec eux aussi parce que leurs parents les poussaient à le faire, puis ils voyaient là-dedans une activité le fun pour leur enfant aussi, là, enrichissante, là. Fait que, je pense que ça a été le cas pour eux quand même, là.
Puis comment ils ont réagi au film? Est-ce qu'ils l'ont vu?
Oui, ils l'ont vu. Ce qui est dommage, c'est que quand le film était terminé, là, c'était en pleine pandémie. Fait que moi, j'aurais aimé ça faire une projection avec les gens puis se voir. T'sais. Fait qu'il y en a qui m'ont répondu. La mère de la petite fille m'a répondu, elle dit qu'elle était bien excitée, elle avait bien hâte de le voir. C'est sûr, c'est pas un film pour enfants. Fait que
non, c'est ça.
Le point, c'est pour ça que j'aurais aimé ça la voir à côté de moi, voir sa réaction, son corps, tu sais, comment qu'elle réagit. Mais sa mère m'a juste dit bon, qu'elle a bien aimé, mais. Vraiment, ses impressions, tu sais, c'est dommage, je peux pas le savoir.
T'as pas eu accès, ouais. Mais au moins, je me dis qu'il probablement qu'elle a une certaine distance ayant joué dans le film pour que peut-être les images soient moins troublantes pour elle, parce qu'il y a des images vraiment troublantes dans le film.
Exactement, puis ça, je l'ai mentionné à sa mère. J'ai dit à telle seconde, là, peut-être éviter qu'elle le regarde. Parce que nous, quand dans le film, elle regarde ces images-là, mais bien sûr, on l'a filmé en champ contre champ, elle regarde pas vraiment. Les images de la guerre, là, c'est
la magie du cinéma,
exact. Ouais.
Mais j'aimerais qu'on en parle aussi du travail d'archives pour aller trouver ces images-là, parce qu'il y a vraiment des images d'archives qui sont... autant il y a un peu de la crise pour nous remettre en situation du verglas, mais il y en a aussi, comme tu disais, de la guerre, de la situation en Algérie qui sont très, très difficiles à voir. Ça va très vite, tu sais, dans l'espèce d'idée d'un film très sensoriel, mais tout de même, le travail pour aller chercher ces images d'archives-là, ça s'est passé comment?
C'était très simple. Dans le fond, on a fait des recherches en ligne. Ça venait surtout de Radio-Canada puis de la BBC. C'est très accessible. C'est quand même un événement qui s'est passé dans les années 90 puis qui a été très documenté. Là. Mm-hmm. Puis après ça, ben, c'était de faire un peu le parallèle entre la guerre du Vietnam, je ne sais pas pourquoi, entre la crise du verglas puis le conflit en Algérie, parce que je trouvais qu'en regardant, à force de regarder les images, de chercher des images de ces deux événements-là, je voyais quasiment pas des... c'est pas du tout la même chose, là, on s'entend, mais au niveau visuel, je trouvais qu'il y avait des images qui se ressemblaient, que ce soit des camps de concentration ou les camps des gens qui n'avaient plus de maison ici, puis qui faisaient dormir tout entassé dans des gymnases. Des tanks, tu sais, il y avait des tanks... Ouais. Et moi, pour moi, c'était comme, dans le fond, le générique où on voit ces images-là en montage parallèle, c'est un peu ce qui se passe dans la tête de la petite fille aussi. C'est toutes les images qu'elle, elle a vues, et elle mélange tout ça, parce qu'un enfant à cet âge-là ne va pas nécessairement faire la distinction. Elle voit des tanks chez elle, elle arrive au Québec, il y a des tanks. C'est un peu l'idée, là, ça se mélange. Là.
Ça se mélange, puis l'imagerie se répète un peu. Puis c'est vrai que c'est vraiment intéressant de, comme tu le dis, c'est absolument pas la même chose, mais de mettre en parallèle qu'il y a une crise, donc il va y avoir des images de désolation, des images de violence, tu sais, d'une part et d'autre. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis le parallèle de tout ça rend le film vraiment riche. C'est un film très sensoriel, tu l'as dit. Moi, j'aimerais un peu parler aussi parce que tu as fait de leur expérimentation. Charles-André, je sais que tu en fais beaucoup aussi. Puis j'ai l'impression quand même que le film, des fois, il vogue un petit peu, il va vers les frontières de leur règle. J'aimerais ça un peu vous entendre sur cette relation-là que vous avez avec le cinéma expérimental.
Moi, ça a commencé, je pense, vraiment à l'Université de Montréal. Là. C'est là que, je veux dire, c'est assez fort là, là-bas. Il y a des profs qui l'enseignent puis qui le mettent de l'avant beaucoup. Fait que si tu as un intérêt pour ça, ben t'es bien servi. Là, tu peux vraiment approfondir la chose. Des projections à la cinémathèque. Fait que ça, dans le fond, moi, je pense que là, maintenant, je m'en vais plus dans des projets plus narratifs. Mais j'étais vraiment intéressée par justement le comment le personnage se sent puis essayer de le traduire. Je pense que automatiquement ça m'amenait vers quelque chose de plus expérimental. J'aime beaucoup jouer, c'est ça, avec le son, l'image, pour vraiment représenter comment la personne se sent puis le faire sentir au spectateur. Il y a beaucoup ça que j'avais découvert aussi dans le cinéma expérimental. Il y a comme, mais Charles est plus calé que moi au niveau théorique là, pour ça, mais il y a comme une sorte de cinéma expérimental plus de vraiment faire ressentir au spectateur physiquement des choses. Ça m'avait comme accroché. Et c'est ça que j'essaie de reproduire.
Mais peut-être si je peux rebondir un peu là-dessus, j'ai l'impression que un des aspects du film qu'on a disons plus tiré vers l'expérimentation, c'est l'aspect sonore. Puis qu'on a justement, je pense, c'est une des raisons pour qu'on est allé avec un musicien, là, Frédéric Boisclair, qui a fait de la conception sonore. C'est dans l'idée, je pense, de créer plus des ambiances ou des nappes sonores qui étaient plus dans le senti que, disons, un motif là, de plus musical, cinématographique, classique. J'ai l'impression que le côté expérimentation a beaucoup été lié aussi par le son, là, comme disait Inès, puis par cette recherche-là un peu sensorielle sonore, là, dans le fond. Puis, tu sais, Frédéric a repris aussi des sons par il a quand même fait il avait jamais fait ça avant, en fait, c'est sa première fois, mais il avait déjà composé de la musique de film, mais jamais fait vraiment une conception sonore. Puis il s'est relancé là-dedans, là, en fait, avec le projet. Là.
Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'au niveau sonore, on va quand même loin aussi dans le point de vue de la petite. Puis le film, c'est quand même ça, sa force là, de nous plonger dans son point de vue, puis un peu dans ses cauchemars à elle. C'est un film que je trouvais un peu aussi comme hanté. Tu sais, il y a clairement les fantômes, justement, de la crise en Algérie puis tout ça. C'est ça que j'ai trouvé le plus fascinant. Mais j'aimerais que vous parliez un peu aussi du rapport avec... Parce que le directeur photo, je pense que vous travaillez aussi souvent avec lui. C'est quelqu'un qui fait partie de votre petite communauté. Puis le travail de l'image est quand même vraiment fascinant. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez utilisé, justement, pour tourner ce film-là dans le noir, comme ça, là.
Oui, c'est ça. À l'image, dans le fond, ce qui est le fun avec Yann, c'est que... Ben, Yann, il ose... Il dit, moi, je veux que ce soit tout dans le noir, ça ne fait pas peur. T'sais, il peut y avoir des DOP qui sont comme, oh my God, est-ce qu'on va voir quelque chose? Puis, dans le fond, il a voulu éclairer avec des lumières naturelles. Fait que quand on voit, par exemple, la famille qui mange autour de la table avec des bougies, là, parce qu'il y a une panne d'électricité, c'est vraiment les bougies qui éclairent la scène. T'sais.
Wow.
Puis, moi, je trouvais ça le fun parce que c'est ça, moi, ça ne me dérangeait pas que la majorité de l'image soit noire parce que c'est ça. Quand je parlais d'avoir cette inquiétude de l'inconnu, mais si ma fille est constamment baignée dans la noirceur, c'est ça aussi, tu sais.
Oui, c'est tout à fait cohérent avec le propos, là.
Exact, exact. C'est comme ça qu'on a travaillé vraiment de juste mettre le moins d'images possible, le moins de lumière possible, puis de recréer la nuit, tu sais, parce qu'on a tourné le jour, fait que ça, c'était...
Il y a quand même beaucoup de jeux d'ombre aussi, là, d'ombre et de lumière, justement, le fameux moment où le père... Et se transforme en conteur, là, puis raconte l'histoire. Il y a quand même beaucoup de jeux d'ombre sur le mur, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu voyais dans ton esthétique pour appuyer le côté du point de vue de la petite?
Ouais, c'est sûr, parce que dans le fond, les ombres aussi, c'est des... c'est une image, c'est quelque chose qu'on peut vraiment s'imaginer. On voit une ombre de quelque chose, on se dit c'est quoi? On peut penser que c'est ce qu'on vit.
Puis il y a quelque chose de menaçant dans l'idée du nombre aussi.
Ben oui, exactement. T'sais. Puis le père, quand il raconte l'histoire du petit pousset qui est quand même traumatisante. Oui. Je veux dire, il y a beaucoup de contes comme ça. Tu te dis, mon Dieu, c'est quelque chose. T'sais, il laisse ses enfants dans le bois à mourir, pour il veut les donner à l'ogre, à manger. Il y a quelque chose d'épeurant. Puis la petite fille, elle sent comme ça aussi, un peu perdue dans une forêt. Puis pendant qu'il raconte ça, ben c'est ça, on voit l'ombre de ses mains sur les murs. Donc, il y a quelque chose en même temps. Ce que j'aime de cette scène-là, c'est qu'il y a quelque chose de nuancé, dans le sens que c'est, oui, il y a quelque chose d'épeurant, mais il y a aussi quelque chose de réconfortant parce qu'elle est bien blottie contre son père. Son père est quand même une présence réconfortante. Son père ne lui fait pas peur, mais l'histoire est quand même épeurante. Elle est bien dans sa famille, mais dans un contexte épeurant, tu sais.
Merci beaucoup, Inès et Chalandré, d'être venu parler du film. Mon Dieu, on aurait pu en parler, je pense, beaucoup plus longtemps. Mais comme votre film va être présenté à notre festival, Plein Écran, qui est sur Internet, donc le film va être présenté sur Facebook et sur notre site web pendant un beau 24 heures, j'aimerais ça vous entendre. On a décidé de retomber dans la nostalgie puis de sonder nos invités, savoir c'est quoi leur premier souvenir d'Internet.
Premier souvenir, c'est dur à dire. Nous, on a vraiment eu un ordi avec Internet en 95. Là, tu sais, quand Windows 95 est arrivé, mon père, c'est un comme type sur l'informatique, fait qu'il fallait l'avoir tout de suite.
J'adore.
Puis, fait que c'était très lent. Et je me rappelle que le premier site que je suis allée visiter, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec d'autres gens de mon âge, puis c'était la même chose, comme je pensais que c'était juste moi. Un site des Simpsons.
Oh, wow!
J'allais sur un site des Simpsons, c'est la première chose que je voulais aller voir, puis je suis pas la seule.
J'adore
comme,
ça.
On a été plusieurs à avoir ce réflexe-là d'aller checker des sites Internet de Simpsons. Je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de sites. Ça, c'est bizarre.
Non, les options étaient limitées. Il n'y
en avait pas beaucoup, puis c'est ça. C'est mon souvenir.
J'adore ça, Charles-André, toi.
Ben moi, j'ai pas un souvenir, je pense, d'un site précisément, mais je me rappelle juste d'avoir été toute la journée. Là. C'est, moi aussi, c'était l'année 90, puis c'est toute la journée bloquer le téléphone puis faire des recherches qui font aucun sens. Là. Juste d'essayer de chercher des choses, mais sans savoir comprendre qu'est-ce qui se passait. Moi, je pense que ça serait ça, mon souvenir.
J'adore ça, c'est magnifique. Ouais. Merci tellement de vous être prêté à l'exercice, puis on invite évidemment les gens à aller regarder L'Enfant Tempête en ligne, puis on se retrouve peut-être à un autre plein écran. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Allié des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, le tout par le biais de conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la Culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au caissedelaculture.com.